Merci Seigneur. Je vous invite sans plus tarder à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. Luc est au chapitre 4. Nous allons voir quelque chose qui nous assure de recevoir une bénédiction, un moyen que Dieu a donné aux hommes pour qu'ils puissent être bénis. Qui veut être béni ce soir? Je crois que ça c'est tout le monde, c'est le cas de tout le monde. Même celui qui ne connaît pas Dieu, je pense qu'il voudrait être béni quand même. Dans le doute, il voudrait être béni. Et pourtant, la Bible nous donne un moyen que les hommes n'aiment pas beaucoup, mais qui nous assure la bénédiction de Dieu. C'est Dieu l'a institué pour cela. Et nous allons lire dans le Luc chapitre 4 l'histoire de la tentation de Jésus dans le désert. Et vous allez comprendre où je veux en venir. Au verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. » car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. On voit bien qu'il y a une différence, même pour Jésus, qui était pourtant le Fils de Dieu. Il y a eu une différence. Avant, il était rempli du Saint-Esprit et après, il était, on l'a lu, revêtu de la puissance de l'Esprit. Et à partir de cet instant-là, il a pu commencer son ministère. C'est-à-dire que Jésus a reçu quelque chose de plus de la part de Dieu au travers de cette tentation. Et si on étudie le mot de près « tentation », on se rend compte que c'est le même qui est utilisé pour signifier l'épreuve aussi. La tentation et l'épreuve. Tout en faisant la différence, il y a des nuances dans le fait que la tentation, elle nous vient de Satan, on est d'accord. Mais l'épreuve peut nous venir de Dieu. Vous me suivez? Et je dirais même plus que l'épreuve de Dieu, peut-être, Dieu peut permettre que la tentation de Satan soit utilisée pour être notre épreuve. Vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé là. Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Jésus aille dans le désert? On l'a lu, hein? Rempli du Saint-Esprit, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et d'autres passages nous disent « poussé par l'Esprit ». C'est le Saint-Esprit qui a conduit Jésus, et on sait que le Saint-Esprit, il ne parle que de la part de Dieu, il nous annonce que les profondeurs des sentiments de Dieu, et donc on sait que c'est la volonté de Dieu que Jésus aille dans le désert. Et c'est peut-être que déjà une leçon pour quelqu'un ce soir, de savoir que des fois, mais on est rempli dans du Saint-Esprit, et on connaît un désert. Des fois, on est surpris, on se dit « Ah, c'est pas la volonté de Dieu, je connais un désert, je connais un temps difficile, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. » Et pourtant, là, on a déjà la preuve que ça peut arriver, c'est arrivé à Jésus. Donc, c'est quelque chose la tentation, l'épreuve, c'est quelque chose que Dieu permet. Et vous connaissez ce passage, on peut le relire quand même ensemble, Jacques chapitre 1er, verset 12, où il est question de l'homme qui traverse la tentation. Jacques 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Regardez la promesse. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Vous voyez que dès le moment où il y a une tentation, où il y a une épreuve, il y a une bénédiction de la part de Dieu aussi. Dieu utilise ce moyen pour bénir ses enfants. Dieu utilise la tentation ou l'épreuve pour bénir ses enfants. pour leur apprendre quelque chose de sa part, pour qu'ils puissent le connaître mieux, pour qu'ils puissent découvrir une nouvelle facette de sa personne, pour qu'ils puissent enraciner leur foi véritablement, que ça ne soit pas quelque chose de superficiel, mais que ça soit quelque chose de très profond. Ça, c'est le moyen que Dieu a employé. Et c'est vrai que ce n'est pas un moyen qu'on aime beaucoup. Quand on propose à quelqu'un, tu veux être béni, amen, alléluia, tu veux être passé par l'épreuve, y a moins de amen et moins d'alléluia, on est d'accord, hein ? Pourtant, je le répète, c'est le moyen que Dieu a choisi sur cette terre. Il y en a d'autres, bien sûr, mais ça, c'est un des moyens. Et il y a encore ce passage, vous allez voir, Deutéronome chapitre 8, que c'est bien la volonté de Dieu que nous soyons éprouvés. Et on va voir même que c'est le but de l'épreuve, il est défini clairement. Deutéronome 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, regardez le but, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme peut vivre non seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça vous rappelle quelque chose peut-être ? Et on va lire au verset 14. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pour quoi faire ? Pour te faire ensuite du bien. Voilà. Maintenant, c'est clair. Le but de l'épreuve, le but de la tentation que Dieu permet à Satan de nous tenter, c'est de nous faire du bien. Et il y a un passage de 1 Jean que je vais lire pour vous, où il est question de ce qu'il y a dans le monde. Et on va se rendre compte que dans ce passage, il est décrit les différentes tentations qui sont utilisées et que le diable va utiliser pour tenter Jésus. Il s'agit du passage de 1 Jean chapitre 2, verset 15. « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et vous savez qui est le prince de ce monde ? C'est Satan. Donc Satan a utilisé les moyens, puisqu'il est le prince du monde, il a utilisé les moyens qu'il a mis dans le monde pour tenter Jésus. Et on va se rendre compte que, oui, il y a eu les trois étapes, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie qui ont été présentés à Jésus, mais Jésus a su résister, Jésus a su avoir cette foi, cette volonté de croire que Jésus était plus puissant, que Dieu était capable de le secourir, que Dieu était capable de le faire passer au travers de cette tentation. Jésus a pu supporter la tentation. Donc première chose, la convoitise de la chair, et ça on le retrouve. Il ne mangea rien durant ces jours-là, ce qu'on a lu tout à l'heure hein, dans Luc chapitre 4, si vous avez gardé la page. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, donc ce qu'on a lu tout à l'heure, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est normal d'avoir faim après 40 jours de jeûne ? Oh, bon, on comprend qu'il avait même sûrement très faim. Est-ce que le fait d'avoir faim, c'est mal en soi ? C'est ça que je veux dire aussi. Non. Est-ce que Dieu était capable de changer les pierres en pain ? Bon, si c'est Dieu, il est capable de tout. La Bible, enfin Jésus, à un moment donné, il dit que si les enfants et les femmes ne chantent pas, Dieu est capable de susciter des pierres pour qu'elles chantent. Donc Dieu est capable de faire en sorte que les pains deviennent des pierres deviennent des pains aussi. On est d'accord ? Alors pourquoi est-ce que Jésus n'a pas fait ce que Satan lui demandait ? Eh bien, précisément parce que c'est Satan qui lui demandait. C'est pas Dieu qui lui demandait. À aucun moment on voit que Dieu a ordonné à Jésus ou lui a demandé de changer la pierre en pain. Et du moment qu'on se rend compte que c'est Satan qui a insufflé cette idée, inspiré l'idée, on se rend compte aussi que ce n'est pas quelque chose d'inspiré de Dieu, justement. Parce que Satan, il parle de son propre fond, et vous vous souvenez peut-être ce verset, cette phrase que Jésus a dite aux pharisiens, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » Et je voudrais, avant d'aller plus loin, étudier ce mot « convoitise ». Vous savez que le mot en lui-même, ça veut dire un désir vif, un désir intense, un désir très fort. Et le mot lui-même, il n'est pas négatif. Le mot qui est utilisé pour traduire « convoitise », en fait, ça veut dire « désir fort et intense ». Sauf que des fois, c'est pour un désir fort et intense pour de bonnes choses. Donc là, il y a cet exemple. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. C'est le même mot. Vous voyez ? Et donc là, c'est une bonne chose. C'est quand Jésus voulait être avec ses disciples et manger la Pâque avec eux, avoir un dernier instant de communion avant la croix. Donc là, c'était quelque chose de bon. Mais quand c'est appliqué à des mauvaises choses, eh bien, ça devient la convoitise telle qu'on la connaît, telle qu'on a l'habitude de l'employer. Donc la convoitise de la chair, et il y a quelqu'un qui a dit, c'est le désir de faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. La convoitise des yeux, ça serait plutôt le désir d'avoir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Et l'orgueil de la vie, c'est le désir d'être quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est un bon moyen de résumer. Mais on se rend compte que Jésus, il a été confronté à cela. Est-ce que le fait d'avoir faim, c'est normal ? Oui, ça fait partie de la nature humaine. Et pourtant, c'est sur ce point-là que le diable est venu. Et on se rend compte aussi que le diable, il profite de ses moments de faiblesse, de nos moments de faiblesse, pour nous attaquer à ce moment-là. Le diable, c'est pas quelqu'un qui a de la compassion, qui attend qu'on soit fort, qui a du fair play. Non, ce qu'il veut, c'est le mal. Il veut nous entraîner avec sa perte à lui. Donc, on a besoin de comprendre que quand on est en faible, on a besoin de Dieu. Et c'est justement sur ce point-là, sur le moment où Jésus avait faim, que le diable est venu et lui a donné cette tentation. Change les pierres en pain et tu vas montrer à tout le monde que tu seras le Fils de Dieu. Et en gros, il lui disait ça, je vais paraphraser à ma façon, laisse ton désir charnel contrôler ta volonté. Ou encore une autre chose, soumets le fait que tu es le Fils de Dieu, tu soumets ça à ton désir humain du moment. Et c'est souvent de cette manière que le diable, il nous tente à chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, le diable, il utilise des désirs qui ne sont pas forcément mauvais en soi, à la base, mais qu'il nous les apporte de telle manière que si on lui obéit, si on écoute sa voix jusqu'au bout, on va aller à l'encontre de quoi justement la volonté de Dieu. On a l'exemple du peuple d'Israël. On pourrait lire 1 Corinthiens 10, verset 6. Ce simple verset qui nous montre que tout ce qu'a vécu le peuple d'Israël, c'est pour notre édification. Or ces choses, 1 Corinthiens 10, 6, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas quoi, de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et là c'est le même mot, que nous n'ayons pas de convoitise aussi, comme ils en ont eu. Donc l'exemple du peuple d'Israël est aussi un moyen. Pourtant le peuple d'Israël, on ne voit pas dans l'histoire de l'Exode et des Nombres, etc., on ne voit pas Satan intervenir à quelques moments. On voit par contre que dans les circonstances qui sont là, on voit que dans les moments que le peuple d'Israël rencontre, les difficultés qu'il rencontre à chaque instant, il y a des moments où par exemple il souffre de la faim, où il souffre de la soif. On est d'accord ? J'ai relu plusieurs exemples, et je ne voudrais pas les prendre tous, mais on sait qu'il y a les eaux de Meriba et de Massa où ils ont eu soif, et l'eau était amère. On sait qu'avant cela, il y avait les eaux de Mara, où là, il n'y avait pas d'eau, carrément, ou c'est l'inverse. Enfin, vous m'avez compris, vous relirez pour vérifier. Et on sait qu'il y a le moment où ils ont eu faim, parce qu'ils étaient dans le désert. Et ils demandaient en plus de la viande au Seigneur. Le Seigneur, il a envoyé la viande. Mais on sait que avant, quand ces choses-là sont arrivées, quand ils ont eu soif ou quand ils ont eu faim, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quelle a été leur réaction ? Ils ont murmuré. Ils ont cherché querelle. Il y a des moments où ils ont même pris des pierres, ils voulaient lapider Moïse. Il y a des moments où ils ont tenté le Seigneur. Il y a des moments où ils ont parlé contre Moïse et contre Aaron. Il y a eu toutes ces choses qui se sont passées. Donc, la faim ou la soif a provoqué tout cela dans leur vie, a fait que ça a été comme une tentation pour eux, et ils ont succombé à la tentation, ils ont mal réagi. Vous êtes d'accord? C'est ça qui s'est passé? J'invente pas. Bon. En tout cas, la Bible nous appelle à ne pas avoir de mauvais désirs, et que c'est un exemple pour nous, pour que nous ne reproduisions pas leur exemple à eux. Que ça ne nous arrive pas. Et combien de fois ça peut arriver? Peut-être pas la faim ou la soif, parce qu'on est dans un pays où il y a l'abondance, mais c'est d'autres choses. Il y a cette chose qui est là, qui est tellement frappante dans notre société. Mais je vais parler très clairement, mais par exemple, le désir sexuel, en soi, il n'est pas mauvais. Mais la Bible, par contre, l'a cadré avec, par exemple, ce verset, que le mariage soit honoré de tous. Et combien dans notre société, c'est pas le cas. Et il y a la tentation qui est là d'avoir des relations hors mariage, d'avoir des relations avant mariage. Et notre société est plongée dans ce péché-là. Et la tentation, pour chacun d'entre nous, peut être grande. Mais la Bible, elle est claire à ce niveau. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal, exemple de souillure. La Bible, elle est claire. On a besoin de comprendre que ce qui fait partie de notre nature, de notre chair, ne doit pas contrôler notre volonté, ne doit pas contrôler nos actions. Nous n'avons pas à succomber à ce que nous désirons, à ces désirs peut-être qui sont là fort intenses, mais nous devons obéir à la parole de Dieu, nous devons faire la volonté du Seigneur. J'ai relevé toutes sortes de verbes que le Seigneur a donné dans sa parole par rapport à la convoitise de la chair. Il ne faut pas obéir aux convoitises de la chair, ne pas avoir soin de la chair pour en satisfaire les convoitises, ne pas accomplir les désirs de la chair, faire mourir les mauvais désirs, fuir les convoitises de la jeunesse ou les passions, c'est le même mot, renoncer à l'impiété et aux convoitises, ne pas nous conformer aux convoitises, s'abstenir des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. La Bible, elle est quand même claire dans ce qu'il faut faire. Il y a toutes sortes de barrages qu'il faut mettre dans notre esprit, dans notre être intérieur, par rapport aux convoitises de la chair. Il s'agit de décisions intérieures, il s'agit d'un travail sur soi. Je dirais jusque-là à dire que c'est une action de notre volonté. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait dans les gestes, forcément. C'est d'abord quelque chose qu'on fait dans notre volonté. Je décide de m'abstenir de ces choses. Je décide de ne pas aller dans tel endroit ou tel autre endroit où je sais qu'il y aura telle tentation. C'est quelque chose qui est intérieur. En tout cas, Jésus, dans sa réponse, il nous donne la solution. Et si vous voulez la retenir de façon très simple, pour la convoitise de la chair, Jésus nous dit qu'il faut revenir à ce qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. La convoitise de la chair ne peut être supportée, on ne peut ne pas y succomber que en écoutant la parole de Dieu. C'est le désir de la chair qui ne doit pas être mon maître, mais c'est la parole de Dieu qui doit être mon maître pour que je puisse faire la volonté de Dieu. Donc si je veux la récompense divine, je ne dois pas céder à la convoitise de la chair, je dois me nourrir de la parole de Dieu. Deuxième chose, la convoitise des yeux. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le désir d'avoir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. C'est le désir de posséder quelque chose. Et si vous venez avec moi dans Genèse chapitre 3, vous vous souvenez de cette histoire qu'on connaît bien? Quand Ève est tentée par le serpent, qu'est-ce qui se passe au verset 6? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous avez vu? Il y a trois choses qui se sont passées à ce moment-là. Elle a été amorcée par la vue. Et comme on est dans la convoitise des yeux, on comprend qu'on est là-dedans. Mais la première chose qui est dit, c'est que elle a vu que l'arbre était bon. Donc peut-être qu'elle avait faim à ce moment-là et que la vue a fait que ça répondait à un besoin du moment. J'ai faim, je vais manger cet arbre. Sauf qu'il y avait un commandement de la part de Dieu de ne pas y toucher. Donc il y a la convoitise de la chair. Elle a vu que ce fruit était agréable à la vue. Il était là et c'était joli, c'était beau, ça donnait tellement envie. La convoitise des yeux. Elle a vu aussi qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle pensait qu'elle méritait d'en connaître plus. Elle pensait que, et Adam il a suivi dans ça, il pensait qu'il méritait d'être à la place pas à la place de Dieu, mais d'être au moins au niveau de Dieu. Et qui leur a inspiré ça, si ce n'est celui qui a eu cette idée, le premier, le diable. Donc, on voit que Il y a toutes sortes de choses qui se passent comme ça. Quand on désire avoir quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est ça la convoitise des yeux. Et le diable, il utilise ce moyen. Le diable, il utilise cette tentation-là parce que nous sommes dans un monde fait de choses extérieures. Nous voyons les choses. Si nous ne voyons pas, ça serait quelque chose de particulier. Ou au moins, nous entendions. Mais je voudrais aller plus loin. Ce n'est pas seulement les choses que nous voyons. Par exemple, j'ai pris des exemples tout simples. Le danger, en tout cas, c'est que la beauté des choses qui nous entourent surpasse la volonté de Dieu. Et les exemples, ils sont ceux-là. Des fois, c'est des objets. On voit tel objet, on a envie de le posséder. Des fois, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine autorité. Et on trouve que c'est beau, on a envie de le posséder. Vous voyez, ce n'est pas forcément des choses matérielles. Mais c'est des choses qu'on a envie de posséder, mais qui ne sont pas forcément la volonté de Dieu. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais si elles contrecarrent la volonté de Dieu, si plutôt elles prévalent sur la volonté de Dieu, alors on passe à côté, on succombe à la tentation. Il y a le fait de trouver un garçon ou une fille jolie. C'est déjà arrivé à quelqu'un? Non? Bon. Vous êtes que des extraterrestres, alors. Ça, c'est pas mal en soi. Mais si, parce qu'on trouve quelqu'un joli, on va commencer à avoir toutes sortes d'actions pour essayer dans la présence de la personne et faire toutes sortes de subterfuges pour s'en approcher, alors qu'on n'a aucune idée de ce que c'est la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose de bon. Faut pas qu'on se laisse tromper par la beauté. Faut pas qu'on se laisse tromper par l'intelligence, par toutes sortes de choses, des qualités. Il y a cet exemple que je lisais, un pasteur racontait cela. Il y avait une fille qui avait un talent incroyable pour la musique. Elle savait jouer de plein d'instruments différents, mais elle n'était pas encore au Seigneur. Quand elle a été touchée par le Seigneur, elle a réalisé quelque chose de particulier. Elle a réalisé que son amour pour la musique, c'était un danger qui pouvait se mettre entre son âme et son Dieu. Elle a réalisé ça. Et elle a décidé, j'ai trouvé ça incroyable, elle a décidé que pendant 8 ans, elle allait ne pas toucher à un seul instrument, simplement pour fortifier sa foi sur des choses, que pas seulement sur la beauté des choses qu'elle aimait, mais sur la parole de Dieu, sur les choses que Dieu avait données. Et au bout des 8 ans, elle pensait pas s'arrêter à 8 ans, elle n'avait pas défini cette date, mais au bout d'un moment, elle a compris qu'au travers de la musique, le Seigneur l'appelait à bénir les personnes, à chanter l'Évangile, et elle a pu être en bénédiction justement quand elle a commencé à mettre son service au service du Seigneur. Et je trouve que c'est quelque chose de remarquable. Souvent on se fait avoir parce qu'on met quelque chose qu'on trouve beau et qui n'est pas forcément mauvais en soi, mais on le met entre nous et Dieu. Et on se laisse piéger. On se laisse piéger par la beauté de la chose. Et c'est ça la convoitise des yeux. Le Seigneur nous appelle simplement à ne pas faire comme le diable. Regardez avec moi ce qu'il est dit du diable. Ézéchiel, chapitre 28, verset 17. Il s'agit d'une prophétie qui concerne le roi de Tyr, mais il y a un moment dans la prophétie qui concerne le diable. Je vous invite à lire tout le chapitre pour vous en assurer. Ézéchiel, chapitre 27. Alors, c'est 28, pardon. Ézéchiel 28, verset 17. Regardez ce qu'il est dit du diable, donc. « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. » Et regardez ce verset en particulier, « Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » J'aimerais vous dire que c'est exactement ce que le diable a vécu lui-même dans sa personne, c'est la même chose qu'il propose à tout le monde. C'est de corrompre notre regard, corrompre notre intelligence par la beauté des choses qui nous entourent. Et de faire en sorte que ces choses brillent tellement qu'on oublie les conséquences, qu'on oublie ce qui va avec et qu'on oublie Dieu. Qui est là, qui voudrait prendre la première place, qui lui revient de droit. Le diable, il se sert de l'éclat des choses, de la beauté des choses pour corrompre notre regard. Regardez ce qu'il propose à Jésus. Il lui montre tous les royaumes, vous l'avez lu comme moi, il lui montre tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donne tout ça si tu te prosternes devant moi. Le diable, il a cette attitude qu'il veut prendre la place de Dieu, il veut surtout prendre l'adoration qui revient à Dieu. Et pour y parvenir, il propose au Seigneur un raccourci, parce qu'il sait pertinemment que le Seigneur, un jour, il va revenir sur la terre pour régner. Il sait que lui, il va avoir le pouvoir, il va avoir la gloire de tous les royaumes, il va le voir tout ça. Mais le diable lui propose de prendre un raccourci à ce moment-là. Pourquoi passer par les souffrances? Pourquoi passer par la croix? Pourquoi passer par tout ça? Je te donne toutes ces choses. Elles sont à moi. Je te les donne, tout simplement. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai travaillé au Quick il y a quelques années, en arrière. Vous savez, le concurrent du McDo. Et il y a un truc qui m'avait frappé parce que j'étais assistant manager. Donc, je connaissais un peu les rouages du restaurant. Et à un moment donné, vous savez, les belles affiches qu'il y a des hamburgers, là, qui, quand vous allez commander, vous êtes là devant et vous voyez ces belles affiches, les hamburgers qui sont magnifiques, tout gros, tout brillant. Et en fait, j'ai appris que ceux qui sont en photo, on ne pourrait pas les manger. Parce qu'ils sont tellement pleins d'huile, tellement de choses qui les font briller, tellement ils mettent des matières plastiques pour faire en sorte que ça tienne bien. Enfin, il y a toutes sortes de choses, ce qui fait que les hamburgers qui sont en photo, on ne peut pas les manger. Alors c'était au Quick, je ne sais pas au McDo comment c'était. Je ne préfère pas m'avancer. Je dis ce que je sais. Mais je doute que ça doit être pareil. En tout cas, c'est ce que le diable il nous propose. Il nous propose quelque chose qui est magnifique, quelque chose qui est beau, quelque chose qui brille, quelque chose qui donne envie. Et si on va au fond des choses, on se rend compte que finalement c'est vide, finalement ça ne nous apporte pas ce qu'on voulait. On veut être heureux, mais on n'arrive pas à être heureux. On veut connaître l'amour, mais on ne connaît pas le vrai amour. On va que de déception en déception parce qu'on est tout le temps attiré par ce qui brille, tout le temps attiré par ce qui frappe les yeux. Et souvenez-vous de ce verset. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, il regarde au cœur. Le peuple d'Israël a été éprouvé parce qu'il voyait aussi. Quand il était face à la mer Rouge, que les Égyptiens étaient derrière lui, il voyait un tas d'eau devant et il voyait une armée derrière. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a attendu patiemment que le Seigneur vienne opérer sa délivrance. Non, c'est pas ça. Il a murmuré contre Moïse pour changer. Et il a encore critiqué Moïse, critiqué « Ah, comment c'était bien l'Égypte !» Il a encore revenu sur son passé, revenu sur ces choses qu'il avait touchées avant. Alors que Moïse qui était là, parce que je voudrais quand même insister, il y a deux options dans la tentation ou l'épreuve. Et on peut bien réagir ou on peut mal réagir. Le peuple d'Israël a mal réagi, mais Moïse qui avait foi en l'Éternel, Moïse qui avait foi en la puissance de Dieu, Moïse qui se souvenait de la parole de Dieu, qui avait dit « Je vous emmène dans le pays dont vous allez prendre possession ». Quand il s'est retrouvé là, il a dit, ben moi par contre j'attends la délivrance du Seigneur. Et lui il attendait paisiblement. Moïse il était doté d'une patience incroyable. Je ne sais pas comment nous on aurait réagi. Mais en tout cas Moïse il était là, il a attendu que le Seigneur fasse sa délivrance. Et il lui a dit, tape avec ton bâton la mer s'est ouverte en deux. Et ils ont pu passer, les Égyptiens les ont suivis, ils ont été engloutis. Quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Quand ils étaient devant le pays de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé 12 espions, les espions sont revenus. Il y en a deux qui disaient, oui, c'est un pays où coule le lait, le miel, il faut y aller. Il y en a 10 qui ont dit, oui, d'accord, mais il y a des géants. On a vu qu'il y avait des géants. On a vu qu'ils avaient des murailles qui touchaient jusqu'au ciel. On a vu qu'à leurs yeux, on était des sauterelles. Par rapport à ce qu'ils ont vu, alors qu'ils avaient la parole de Dieu, qu'ils allaient prendre possession, Dieu, il avait dit, littéralement, je serai avec vous. Est-ce que ce n'est pas une parole qu'on a envie d'entendre, ça? Eux, ils avaient cette parole-là. Pourtant, ils ont dit, oui, tu vas être avec nous, mais nous, on a vu. Vous voyez qu'ils ont pris ce qu'ils voyaient, ils ont pris plus garde à ce qu'ils voyaient qu'à la parole de Dieu. Résultat, ils sont retournés dans le désert. Ça, c'est quand on succombe à la tentation, forcément, on passe à côté de la bénédiction, et des fois, on prolonge l'épreuve que Dieu voulait par laquelle Dieu voulait nous faire passer. En tout cas, la solution, elle est simple. Jésus, il a dit quoi ? Jésus, il a dit, il a répondu, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Ou, le servir, c'est tu lui rendras un culte à lui seul. Et si vous voulez encore retenir une seule chose, pour la convoitise des yeux, la réponse du Seigneur, elle est simple, il faut chercher la face de Dieu. Pourquoi chercher la face de Dieu? Pourquoi? Parce que quand on adore le Seigneur, quand on contemple la magnificence, comme il est dit dans le psaume 27, quand on regarde le Seigneur, on le contemple dans toute sa beauté, eh bien alors notre regard à nous, il est transformé. Alors nos yeux du cœur s'illuminent, alors le Saint-Esprit est là, il renouvelle notre intelligence. Alors il y a tout ça qui se passe. Et alors quand on regarde les choses, on ne les regarde plus de manière matérielle, de manière terrestre, on les regarde de manière spirituelle. Ça, c'est le moyen que le Seigneur emploie. Il suffit, entre guillemets, de chercher la face de Dieu. Si nous voulons ne pas succomber à la tentation des yeux, il faut chercher la face de Dieu. C'est simplement ce que le Seigneur nous ordonne. Et la troisième chose, je vais finir avec ça, l'orgueil de la vie. On revient dans Luc, chapitre 4. Verset 9, « Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, je rajoute aussi, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable conduit en haut du temple. Et combien je pensais à cette image qui est forte. Souvent, le diable nous amène en haut du temple. Souvent, il nous amène à penser qu'on est au-dessus de l'Église, on est au-dessus de la maison de Dieu. On peut se passer de la prière, on peut se passer de la communion avec Dieu, on peut se passer de la communion fraternelle. C'est pour les faibles, c'est pour les petits ça, c'est pour ceux qui ont besoin d'être encouragés. Toi, tu peux t'en passer. Combien de fois on entend cette phrase dans nos oreilles? Le diable qui nous murmure ces choses, toi tu es au-dessus de ça, tu peux te passer. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent se passer de la communion fraternelle, ils peuvent passer des uns et des autres. D'autres, ils pensent qu'ils peuvent se passer la prière. Oh, c'est un état d'esprit, je prie pas, je pense au Seigneur, voilà, mais je prie pas. Combien de fois on est en haut du temple? Et malheureusement, on y reste. Ça peut être une tentation, quelque chose, on est amené, on a cette pensée qui traverse l'esprit, mais on doit être amené. Les choses à leur place. L'orgueil de la vie, c'est quoi? C'est le désir d'être quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a prévu quelque chose pour nous, quelque chose de parfait, des projets de paix et non de malheur. Il a prévu quelque chose que nous devons faire pour notre vie. Et souvent, on pense que parce qu'on a réussi certaines choses, on possède quelque chose, quelques talents, quelques compétences, et on peut se satisfaire de ces choses et désirer plus, comme Ève a désiré que son intelligence augmente. Ça nous rappelle quelqu'un. Ésaïe 14, verset 13. Je vais vous montrer que toutes les fois où le diable propose quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de lui. Il a vécu. Ésaïe, chapitre 14 et le verset 13. Voilà ce que le diable a dit un jour. Ce qu'il est dit de lui. « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Voilà les pensées qui ont traversé le cœur du diable. Et ce qui a fait que maintenant, quand il nous tente, c'est exactement ça qu'il nous propose. Regarde, après tout, tu vaux beaucoup plus que ça. Tu n'as pas besoin d'aller à l'église. Tu n'as pas besoin d'aller à la réunion de jeunesse. Tu n'as pas besoin d'aller à la réunion de prière. Tu peux t'en sortir tout seul. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu ça dans leur esprit? Moi, j'ai déjà entendu ça. C'est les tentations que le diable nous propose. Et il faut faire attention. Regardez ce qu'il a fait par la suite. Il a employé la parole de Dieu, mais je vais dire ça comme ça, un bout de verset, c'est pas une excuse valable. Parce qu'il a pris une partie du verset du psaume 91, qu'on connaît très bien. Et qui commence comment? Il s'adresse à qui? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Et le diable, il a pris juste la bénédiction. Mais il faut d'abord demeurer sous l'abri du Très-Haut. Et si Jésus s'était jeté dans le vide, il ne serait pas demeuré sous l'abri du Très-Haut. Il aurait fait sa propre volonté. Pourtant, Jésus, il a pu dire, je fais toujours ce que me dit mon Père. Je lui suis toujours agréable. Et mon Père m'exauce toujours. Ce qui était une preuve qu'il lui était agréable. Donc, on a besoin de comprendre qu'un verset, un petit verset de la Bible, ça ne suffit pas. Il faut plonger dans le contexte, il faut plonger dans les versets qui le contrebalancent pour connaître les vérités de la parole. En tout cas, le Seigneur, il nous propose quelque chose, il nous donne une solution pour l'orgueil de la vie. C'est de remettre les choses à leur place. Qu'est-ce qu'il dit au diable ? Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il lui dit, bon, ça suffit. Dieu, c'est Dieu. Moi, je suis le Fils de Dieu, mais je lui suis soumis. Et pour nous, qui sommes les enfants du Seigneur, par la grâce de Dieu, parce que nous avons cru au sacrifice de Jésus, nous devons mettre toujours les choses à leur place dans l'épreuve, dans la tentation. Nous devons toujours revenir au Seigneur, recentrer les choses sur le Seigneur. Ne pas centrer les choses sur notre épreuve, sur nos malheurs, sur nos soucis, sur nos maladies. Recentrer les choses sur Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette maladie ? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cette épreuve ? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de ce besoin qui est là, que je ressens au travers des circonstances ? Seigneur, je veux recentrer les choses sur toi en tout cas. Même si tu ne me parles pas, je veux faire ta volonté, je veux être fidèle, je veux être juste. La solution que Jésus il a proposée, c'est simplement de revenir au trône de Dieu, au trône de la grâce. De revenir à cette vérité que Dieu, il règne sur son trône. Et que, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la tentation, c'est lui qui règne. C'est lui qui est juste. C'est lui qui est droit. C'est lui qui sait ce qu'il fait. Même si nous, on ne sait pas, Dieu, il sait en tout cas, parce qu'il est Dieu. Vous avez retenu avec moi que la convoitise de la chair, il faut revenir à la bouche de Dieu. La convoitise des yeux, il faut chercher la face de Dieu. Et l'orgueil de la vie, il faut revenir au trône de la grâce, tout simplement. Je pourrais multiplier les exemples, je vous donne ça. Il y a Corée qui a connu l'orgueil de la vie. Le peuple d'Israël lui-même a connu l'orgueil de la vie quand ils ont fait le veau d'or, quand ils sont à nouveau attaqués, les Amalécites, alors qu'ils devaient retourner dans le désert. Ils n'ont pas obéi. Ils ont connu l'orgueil de la vie. Mais je vous laisse ces choses. En tout cas, Paul et Barnabas, eux, sont un exemple du fait qu'on peut résister, ne pas succomber à la tentation. Quand ils annonçaient l'évangile, ils ont guéri un boiteux, parce que Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Les gens qui étaient là, ils les ont pris pour des dieux. Ils croyaient que c'était Jupiter et Mercure. Et ils disaient, ah, ce sont des dieux, on va leur offrir un sacrifice. Et Paul et Barnabas, ils ont déchiré leurs vêtements et leur ont dit, non, nous ne sommes que des hommes. Et on n'a aucune puissance par nous-mêmes. C'est que le Seigneur. Ils ont recentré les choses. Ils ont remis les choses autour du Seigneur. Ce n'est pas nous qui sommes des dieux. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. C'est ça que nous devons faire quand nous sommes tentés par l'orgueil. Nous devons remettre les choses à leur place. Dieu est au centre. Dieu est celui qui règne sur son trône. Que son nom soit béni. Alors ce soir, que nous puissions réaliser que pour être bénis, peut-être pour être renouvelés dans le Saint-Esprit, pour être baptisés, revêtus comme Jésus de la puissance d'en haut, il a pu accomplir un ministère incroyable juste après ça, et sa renommée s'est répandue partout, mais parce qu'il avait compris qu'au travers de la tentation, Dieu pouvait le bénir. Nous devons comprendre ces choses toutes simples. Au travers de la tentation, au travers de l'épreuve, Dieu veut nous bénir. Et peut-être ce soir, quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il se dit, mais moi aussi je connais des tentations, moi aussi je connais des épreuves. Mais sache que pour toi, Ces tentations, ces épreuves, c'est seulement pour t'amener aux pieds du Seigneur. Seulement pour que tu viennes à lui avec ton péché et que tu lui dises, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, je me repens de mon péché et je crois qu'à la croix, tu as pris mon péché, tu as effacé ma dette. Et pour vous, c'est ça que ça veut dire. L'épreuve, pour celui qui ne croit pas au Seigneur, ça lui amène aux pieds de Jésus. Pour celui qui croit au Seigneur, ça l'amène plus loin encore. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Oui, Éternel, nous voulons te bénir. Nous voulons te louer parce que ton nom est grand. Seigneur, je te demandais encore dans cette soirée de bénir chacune de nos personnes, Seigneur, chacun de nos cœurs. Merci parce que tu nous as donné la tentation ou l'épreuve, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons être heureux dans ces moments-là. Mais nous savons que cette joie ne vient pas de nous-mêmes, elle ne vient pas de notre chair, elle ne vient pas de notre nature humaine. Elle ne vient que de toi, que de ton esprit. Alors Seigneur, nous avons besoin de toi. Dans cette soirée, nous déclarons que nous sommes dépendants de toi, Seigneur. Nous ne pouvons pas résister, nous ne pouvons pas ne pas succomber sans toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Alors Seigneur, aide-nous à traverser les tentations, aide-nous à traverser les épreuves avec la force que toi seul peux nous donner, avec ta parole, avec ton esprit, avec ton autorité, Seigneur, que toi seul peux nous donner. Nous croyons que dans ta parole, tu nous as donné les clés qui vont nous permettre de traverser les épreuves, Seigneur. Nous croyons que tu veux aussi nous récompenser quand nous t'obéissons, quand nous faisons ce que tu nous demandes, quand nous allons ni à droite ni à gauche, mais quand nous faisons ce qui est droit à tes yeux. Alors Éternel, garde chacun de nos cœurs, que nous puissions simplement suivre la voie que toi tu nous as tracée. Merci pour cet exemple que tu nous as laissé dans ta parole, où tu nous as montré que il n'y a aucune tentation qui n'ait été humaine, et tu nous donnes toujours la force de traverser la tentation, Seigneur. Alors nous voulons te bénir, nous voulons te louer parce que nous croyons que tu es un Dieu de bénédiction. Oui, nous ne voulons pas te chercher pour la bénédiction, mais nous voulons te chercher à toi, sachant que tu es béni, Éternel. Merci de bénir les personnes qui sont là dans ce lieu. Tu connais peut-être celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, celles qui te découvrent. Je te demande de toucher leur cœur, de les amener à réaliser que leur épreuve qu'ils traversent en ce moment, qui est peut-être difficile, peut-être insupportable, elle n'a de raison d'être que de les amener à tes pieds. Alors tu les bénis en ce moment, tu leur donnes de comprendre ces choses. Et à nous, tu nous aides à ne pas nous corrompre dans notre regard face aux choses qui brillent autour de nous, mais de toujours regarder à toi, toujours garder les yeux fixés sur toi. Que ton nom soit béni, Éternel. Amen.